You are listening to the Friday edition of Security of the Hour. Follow us on Twitter at Security News. Next up, tonight at UCAM, an important panel, conference, and discussion on the subject of Shahrest controversial Plan Nord, or Plan Nord, to discuss the important question of for who and why. The pessimist Innu Council promised in the media to make war. Many other indigenous people and ecologists oppose it, but what is the opposition on the ground? The province is spending $80 billion set to take place over a quarter century. Raphael Picard, chief of the Union Nation of Pessamit, tried to wage war to prevent the Plan Nord from ruling over their territory. We are joined in studio by Marc Fafard from Sept-Îles Sans Uranium, Arthur Picard from Innu Power, and by phone, Yvan Croteau from Action Boréale. Bonjour.
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 Yvan, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Je maîtrise pas l'anglais suffisamment bien. Ça va si j'interviens en français?
Ah, tout va être en français.
OK, c'est bon. Puis, je vais surtout parler au nom du réseau québécois des groupes écologistes.
OK. OK, donc vous allez parler au nom du regroupement des groupes écologistes du Québec qui a affirmé son opposition cette semaine?
C'est ça.
Donc, je vous demanderai premièrement de nous dire qu'est-ce que c'est pour vous le Plan Nord?
Bien, pour le milieu environnemental, le Plan Nord, dans la forme actuelle, pour nous, c'est un plan qui fait la promotion du développement économique. C'est un plan qui fait la promotion d'une idée partisane du gouvernement, du Parti libéral. C'est un document, en fait, qui a été présenté au printemps dernier, qui nous apparaît très incomplet. Alors, l'idée de planifier, c'est une bonne chose, mais encore, il faut que cette planification-là soit faite de la bonne façon.
Donc, bonjour, Monsieur Croteau, Marc Fafard de Sept-Îles, ça va bien?
Oui, salut Marc, ça
bonjour.
Va, oui.
Donc, pour nous, sur la Côte-Nord, ou pour Sept-Îles sans uranium, le Plan Nord, c'est une plateforme, si on veut, ou une campagne, ou on pourrait même dire un show de boucan, mais c'est un coup monté, comme on est habitué de le faire, des coups d'éclat à Sept-Îles sans uranium, on en a fait beaucoup. Donc, on pourrait comparer ça à un coup d'éclat un peu majeur de la part de la province du Québec pour stimuler l'intérêt face aux ressources naturelles qui sont dans le nord du Québec, puis qui sont très en vue là, de par la valeur des prix des minéraux présentement sur le marché mondial.
Arthur Picard de Innu Power, je vous poserai la même question.
Ben, pour nous, le Plan Nord, c'est... On est contre, premièrement, parce que nos droits sont bafoués avec nos droits constitutionnels, notre titre aborigène qu'on détient toujours et les droits ancestrales sur le territoire. Nous, dans notre communauté, la carte du Plan Nord, du territoire visé, c'est 10% de la carte du Plan Nord qui est directement visée sur notre communauté. On est 4000, puis on a dénoncé le Plan Nord, la façon de Jean Charest. Il n'y a pas eu de consultation au niveau des communautés autochtones. On a été obligé d'aller faire un blocus en juin, un blocus routier, pour manifester, montrer vraiment que c'était sérieux, qu'on s'opposerait au Plan Nord. Et aujourd'hui, on continue encore à faire des mouvements de pression éventuellement qui vont s'en venir aussi.
On a beaucoup présenté dans les médias le fait que la plupart des Autochtones étaient pour le Plan Nord, mais c'est pas nécessairement vrai. Est-ce que j'aimerais ça vous entendre plus là-dessus?
OK. C'est ce qui arrive avec point de vue autochtone. Il y a... Dans les affirmations de Jean Charest, il disait qu'il y avait 26 des 33 communautés autochtones qui approuvaient le Plan Nord. Mais quand on regarde, il y a plusieurs autochtones qui sont conventionnés par la Convention de la Baie James, la paix des Braves, c'est qu'ils n'adhèrent pas au Plan Nord par choix, mais c'est pareil, ils ont été conventionnés. Puis nous, les communautés, chez les communautés Innu, on représente 16 000, il y a 9 communautés. On est 6 à pas être d'accord sur la question du Plan Nord, sur le développement des ressources. Nous, on n'acceptera pas que ça soit les compagnies internationales qui viennent chercher les ressources, puis qu'il n'y ait pas de... Pour nous, premièrement, les communautés, il y a eu le développement du Nord qu'on n'a jamais vraiment hérité. Le Plan Nord, ça fait longtemps qu'il a commencé sur notre Nitassinan. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Il y a Hydro-Québec qui a exploité à outrance. On a 13 barrages hydroélectriques. Parce que le Plan Nord, ça fait longtemps qu'il a débuté, si on regarde bien l'ensemble du Québec.
Oui, c'est un peu ça, le Plan Nord, c'est juste qu'en fait, on crée une espèce de réseau de soi-disant développement de plusieurs projets qui, entre autres, sont en cours ou existent déjà, puis plein d'autres qui vont arriver.
Oui, c'est ça, exactement. C'est, on n'acceptera pas qu'il y ait 200-300 compagnies qui viennent s'établir sur notre Nitassinan. Quand on répète souvent qu'on a les droits ancestraux, les titres aborigènes qui ont été reconnus par les tribunaux, mais que le gouvernement Charest ne met pas... ne regarde pas du tout les droits des Autochtones au niveau du plan Nord. Nous, on qualifie ça de politique d'assimilation qui continue via le plan Nord.
Oui, puis il y a aussi cette semaine, il y a des cris, entre autres d'un groupe de musique qui s'appelle Ceremony, dont je veux passer une chanson aujourd'hui, qui a affirmé son opposition au plan Nord. Ils disent aussi qu'ils étaient opposés à la paix des braves, puis que leur chef ne les a jamais écoutés en tant que jeunes Autochtones, particulièrement des jeunes cris. Mais j'aimerais ça savoir sur le terrain, comment ça se vit le plan Nord? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui s'en vient?
Ben pour nous, à cette île, le plan Nord, c'est vraiment un show de boucan, puisque sur le terrain, on a une minière de fer qui vient d'ouvrir l'année passée, Consolidated Thompson Iron Mine, la première en 60 ans, qui a été en construction pendant 2 ans auparavant, qui vient d'être vendue là, suite à leur premier chargement de bateau. On a aussi la compagnie IOC qui est là depuis toujours. Quand je dis toujours, c'est une soixantaine d'années. On a Wabush Mine qui est sur place. On a ArcelorMittal qui est à Port-Cartier. Puis on a Rio Tinto Ferritistan qui est à Havre-Saint-Pierre. Ils sont tous là depuis environ 60 ans. Puis ces mines-là fonctionnent au même régime, là, à une cadence d'environ 25 millions de tonnes par année depuis à peu près là les derniers 2 ou 3 décennies. Donc ces compagnies-là prévoient doubler leur production, donc touchent chacun de leur côté. Puis ça, c'est pas le plan Nord, c'est la valeur boursière, la valeur du marché, au marché du minerai de fer. Donc pour nous, sans plan Nord, on va vivre avec juste les compagnies existantes qui doublent leur production avec des gars de construction tout de suite qui sont en train de construire les infrastructures à Fermont, puis dans la baie de Sept-Îles pour accommoder le transbordement dans les bateaux. Donc sans même avoir le plan Nord, on a déjà beaucoup, beaucoup d'activités. On pourrait même parler de presque 2000 travailleurs de la construction à Sept-Îles. Donc, même quand les élus en parlent à Sept-Îles, le plan Nord, il n'y a rien tout de suite. On voit rien. Il n'y a même pas une pancarte du plan Nord à Sept-Îles. Ce sont tous des travaux qui étaient déjà en marche, dont M. Charest est venu agripper un peu le chapeau orange là avec la veste réfléchissante puis le gros camion à Fermont pour annoncer l'avenue du plan Nord en même temps que ses projets d'agrandissement ou de multiplication là, des capacités d'extraction des compagnies existantes. Donc, pour nous, le plan Nord, c'est rien du tout. Si on regarde la base Côte-Nord, la route 138, qui, elle, se termine à Natashquan, on parle beaucoup de route là, avec le plan Nord puis d'accès au territoire, que ce soit pour le tourisme ou pour les ressources, bien, la route 138 qui loge encore 14 communautés qui ne sont pas reliées à la route, ne fait pas partie vraiment du plan Nord. Il n'y a aucune annonce, là, à part qu'un pont à Natashquan. Les annonces du plan Nord sont très ciblées par rapport aux Autochtones, par rapport aux projets des compagnies existantes, mais sur le terrain, on voit vraiment rien de nouveau là, qui pourrait avoir la couleur ou la saveur du plan Nord. Le barrage de la Romaine est en construction bien avant l'avenue du plan Nord, donc ce n'est qu'un concept sur papier, c'est une belle brochure, c'est un grand show avec tout le kit de médias, de publicité. On a vu la campagne de lancement à Lévis qui a coûté presque 500 000 à... On parle pas d'un show de Céline Dion, mais d'à peu près les mêmes technologies, les mêmes choses. Donc, la caravane du premier ministre qui fait le tour du monde pour faire la promotion du Québec en utilisant la brochure du plan Nord. Mais pour nous, le plan Nord, c'est encore seulement une brochure.
Pour vous, Arthur Picard...
Pouvez-vous répéter la question?
Sur le terrain, comment ça se vit le plan Nord? Qu'est-ce qui existe déjà, puis qu'est-ce qui s'en vient, en fait?
Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, le plan Nord, ça fait longtemps comme qu'il y avait eu des développements hydroélectriques, des développements miniers, puis au niveau de la biomasse aussi, des ressources forestières qui ont été exploitées à outrance sur notre Nitassinan. Aujourd'hui, on regarde, au point de vue, on peut regarder par Google Maps, on voit que le Nitassinan a été saccagé, puis nous... On est vraiment contre au niveau environnemental, Hydro-Québec. On sait qu'il n'a pas respecté. Il parle d'énergie verte en parlant d'hydroélectricité. Mais quand on regarde l'hydroélectricité, quand on produit les bassins de rétention qu'on crée avec les barrages hydroélectriques, ça a vraiment nuit. Pour nous, les Autochtones, ça a nuit à notre mode de vie. On ne peut plus aller on n'a plus accès à ces territoires-là. On dirait que le plan Nord, ça fait longtemps qu'il a été développé sur notre Nitassinan. C'est pour ça aujourd'hui là qu'on veut complètement le stopper. Là. Nous, notre but éventuellement, ça serait le but ultime, ça serait de le contrer complètement, de l'arrêter. Mais nous, si on est capable avec nos moyens qu'on a sur le terrain, il y a beaucoup de militants, puis il y a des actions qu'on va démontrer. Si on peut sauver le 10% de la carte du plan Nord qui est sur le Nitassinan de la communauté, ça va être déjà un gros gain pour nous.
Parce que c'est ça, le plan Nord, c'est aussi dans la continuité de la colonisation qui existe depuis des années et des années et des années, mais ça va aussi complètement détruire votre possibilité de vivre de la manière dont vous viviez historiquement.
Oui, c'est ça exactement, la chasse, la trappe, que ce soit la chasse, la trappe, la pêche, toute la migration du caribou, tout selon notre mode de vie, c'est que le plan Nord, ça, pour nous, ça apporte rien de bon. On dit que nous autres, on n'est pas contre le développement économique de nos régions. On est pour le développement, un développement vert qui est durable aux capacités de la région, aux capacités des employés qu'on peut avoir dans les régions. Puis nous, on voit avec aujourd'hui, on n'a pas une entente de partenariat avec le plan Nord. On est seulement là à titre de figurant. Puis le gouvernement Charest continue devant les médias à dire en Europe, en Chine, à qui veut bien l'entendre, que toutes les Premières Nations sont d'accord. Puis ça, moi, je suis content de venir donner le message que c'est pas vrai. On est 70% des Premières Nations qui sont pas d'accord avec le plan Nord. Comme j'expliquais tantôt, qu'il y avait des communautés qui étaient par obligation, comme les Cris et les Inuits. Mais chez les communautés, nous, on est le 2/3 à dire non. Mais sur le terrain, les Cris, là, les jeunes Cris, ils dénoncent le plan Nord. Mais c'est parce que là, ils ont pas le choix avec leur convention, mais sur le terrain, ça sent que vraiment il y a une mobilisation qui est en train de se faire dans toutes les communautés. Nous autres, on est en train de changer la politique moderne au niveau des communautés autochtones. Là, ça va se jouer sur le Nitassinan, le Nitassinan qui est notre territoire ancestral, le territoire de la communauté. Là, les prochaines actions vont se passer sur le Nitassinan. On risque d'aller bloquer les entreprises minières, les entreprises forestières, Hydro-Québec, bloquer les accès à Hydro-Québec, tant qu'il n'y aura pas une injonction sur le Nitassinan, peut-être sur le plan Nord. On est en train de regarder toutes les avenues, mais nous autres, on était devant les tribunaux en salle en négociation, ça nous aurait donné. Là, aujourd'hui, on est rendu à militer sur le terrain, combattre directement sur le Nitassinan pour pouvoir avoir qui enlève au moins notre partie du Nitassinan sur le territoire visé du plan Nord, parce que la communauté n'est pas d'accord aussi. On a on est des propriétaires du Nitassinan. On est les propriétaires légaux. On a par des tribunaux qui ont reconnu qu'on était les propriétaires légaux. Et le plan Nord outrepasse nos droits complètement chez les nations autochtones.
Et vous, Yvan Croteau, d'Action Boréale, plutôt du regroupement des groupes écologistes du Québec, puis ce soir?
Ben, c'est la même chose que les deux autres personnes. Jean Charest a dit, lorsqu'il a annoncé le plan Nord, que ça se ferait dans le respect des Premières Nations, que ça se ferait en mettant en œuvre de façon concrète les principes de développement durable. Puis ces principes-là sont déjà inscrits depuis 2006 dans la loi sur le développement durable. Il y a 16 principes qui sont à l'intérieur de ça. Mais si on regarde les cadres réglementaires qui ont été modifiés pour respecter ces principes-là, il n'y a pratiquement rien de fait. Puis la seule proposition du côté environnement qui a été amenée sur la table, c'est la question du 50% de conservation du Nord. Puis même cette option-là, un très grand nombre de groupes environnementaux s'opposent pour deux raisons. Un, parce que c'est pas une priorité d'aller mettre des clôtures autour de certains territoires. La priorité, c'est de savoir comment on va intervenir dans ces milieux-là. Premièrement, en respectant les communautés qui habitent déjà le territoire qui ont des droits. Ça veut dire qu'il va falloir que le gouvernement s'empresse de régler la question des droits des Premières Nations qui chevauchent ce territoire-là. Puis deuxièmement, au niveau développement, il va falloir développer toute l'expertise pour respecter les 16 principes de développement durable. Le Sud, il n'y a rien à apprendre aux communautés du Nord sur la façon de développer le Nord de façon respectueuse puis de façon à respecter l'environnement. Fait que là-dessus, ça, c'est une des lacunes majeures que nous... puis les propositions, il y a eu même les groupes qui ont participé aux différentes tables sur le plan Nord, les recommandations qu'ils ont faites, ils n'ont pas été retenues. Ils ne reflètent pas les besoins les préoccupations qui ont été exprimées. Puis un des éléments qui avait été avancé, c'est de dire, ben, il va falloir faire un exercice d'évaluation environnementale stratégique sur toutes les filières que ce soit les mines, que ce soit l'énergie, que ce soit la conservation, il faut évaluer globalement dans ce milieu-là nordique qu'on connaît peu, qu'on ne connaît pas vraiment comment que ce milieu-là va être capable d'absorber l'ensemble des projets qui sont présentés sur la table. C'est pas là. Puis on sent pas cette volonté-là. Le gouvernement vient de lancer là, la Société du Plan Nord. C'est quoi cette société-là? C'est quoi les balises de fonctionnement? C'est une structure qui va pouvoir bypasser le cadre réglementaire existant, ou c'est une structure qui va assumer l'ensemble du cadre réglementaire existant, dont les droits pour les Premières Nations, dont celui d'atteindre les objectifs de conservation tels qu'il a été annoncé là, pour 2015 et ensuite un peu plus tard pour 2020, 17%. On voit rien, on n'a rien sur la table, mais on voit que les budgets sont engagés pour construire des routes, pour construire des aéroports, pour construire, oui, des habitations, c'est urgent pour les Premières Nations là-bas, mais les habitations, c'est pas tout, là, c'est pas ça les besoins des communautés dans le Nord.